Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Jusqu'alors, La Fontaine passait aux yeux du grand public pour un écrivain de fables pour enfants. Ah, ce bon, ce brave monsieur de La Fontaine! Mais que dire de cette langue française si somptueuse et difficile qui fut portée par lui à son plus haut degré de perfection? La Fontaine fit partie de l'équipe des créateurs de génie montée par Fouquet, le surintendant des finances qui fut emprisonné à vie par le roi. Louis XIV récupéra les artistes, Le Nôtre, Lebrun ou encore Molière. La Fontaine, en fidélité à Fouquet, prit des risques énormes. Bref, si l'on redécouvre aujourd'hui l'écrivain dans sa profonde complexité, c'est grâce à quelques dix-septièmistes particulièrement érudits qui aiment à détruire les clichés. Marc Fumaroli, alors professeur au Collège de France, avait transformé son cours fabuleux sur La Fontaine en un livre qui fait date. En 1997, Claude Mourté salua l'événement et demanda à André Bourin d'enregistrer avec Marc Fumaroli une émission « Un livre des voix ».
C'est un ouvrage d'histoire littéraire et d'histoire tout court que vient de faire paraître aux éditions De Fallois notre nouvel académicien Marc Fumaroli. Quels furent les rapports, en dehors des rapports de police, entre le poète Jean de La Fontaine et le roi Louis XIV? Mauvais, forcément. Le fabuliste n'écrivait-il pas « Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout indifférents, sont ce qu'il plaît au prince ». En bref, non pas un doux rêveur aimant la campagne et les animaux, une légende, mais un contestataire, et des pires, ceux qui tiennent la plume. En plus, il avait mal choisi son parti, Fouquet, dont la splendeur du château de Vaux donna à Louis XIV deux idées, pour lui Versailles, et pour son surintendant Pignerol. Marc Fumaroli souligne qu'il y eut beaucoup d'autres opposants et d'autres punis. Saint-Évremont, Ray, Gassendi, Fénelon, tout Port-Royal en témoignent. Sa Majesté préférée, Pélisson, Boileau et Racine. L'État, c'était lui. Émission de Maurice Audran, entretien par André Bourin.
Il y a un chapitre de votre livre, Marc Maroldi, qui en montre le ton, c'est l'Olympe et le Parnasse. C'est une lutte homérique, cela.
Oui, j'ai essayé, dans le premier chapitre, de poser en quelque sorte les deux pôles autour desquels va s'articuler le drame. Parce que c'est un livre dramatique, où les acteurs sont engagés dans un conflit qui n'est pas d'ailleurs tellement évident, mais dont on sent qu'il les engage jusqu'au tréfonds, jusqu'à leur nature religieuse, je dirais, pas seulement dans leurs intérêts moraux ou même politiques.
Il y a en
somme... Et alors les deux pôles, oui, voilà. C'est... en quelque sorte, le pouvoir,
le roi.
Dans cette période, c'est-à-dire la période 1660-1664, se concentre tout à coup d'une façon extrêmement forte et va construire un État qui va faire l'admiration, au fond, de toute l'Europe et même du monde entier, peu à peu. Et puis de l'autre... cette figure, évidemment, extrêmement difficile à saisir, que les historiens ont tendance à ne pas prendre au sérieux, qui est le poète, on pourrait dire aujourd'hui l'écrivain, celui qui n'a à sa disposition, au fond, que l'autorité de sa parole. Et je montre que entre ces deux pouvoirs, ce pouvoir politico-administratif et militaire, et d'autre part ce pouvoir de la parole, ce pouvoir de l'intériorité aussi, puisque la parole poétique ou la parole de l'écrivain est enracinée dans une intériorité tout à fait singulière, à ce moment-là, entre dans une période où leurs rapports ne sont plus ce qu'ils avaient été.
Justement, à propos de La Fontaine, qui vous sert, au fond, à démontrer particulièrement bien ce conflit entre l'Olympe et le Parnasse, il y a un événement qui est déterminant, c'est la chute de Fouquet.
Oui.
Il y a une date, par conséquent, comme pour une bataille.
Voilà, le 5 septembre 1661,
voilà.
Le surintendant Fouquet est arrêté à 10h du matin à Nantes par les mousquetaires gris du roi conduits par D'Artagnan.
Alors, La Fontaine était, lui, du côté de Fouquet.
Il était du côté de Fouquet, puisqu'il était devenu son poète et qu'il avait noué avec lui une véritable relation d'amitié et d'admiration réciproque. Et je pense que ce drame politique, au fond, l'arrestation sur les ordres du roi d'un homme qui devait devenir son premier ministre et qui donc a déçu en quelque sorte tout l'entourage de cet éventuel premier ministre a été pour mon poète, pour La Fontaine, la révélation qu'il allait maintenant devoir survivre en quelque sorte avec ses seules forces.
Dans l'affaire Nicolas Fouquet, où les enjeux politiques les plus graves se mêlent, comme dans les tragédies de Corneille, aux émotions et aux sentiments les plus frémissantes, le poète Jean de La Fontaine a tenu sa partie. Sa parole, qui pouvait sembler faite pour les salons et les jardins protégés, n'a pas fléchi dans une tourmente où tant d'intérêts et tant de périls se conjuguaient pour la réduire au silence ou à la conformité timide. Elle a cependant jailli avec un extraordinaire courage et elle a trouvé dans cette épreuve une résonance nouvelle. Tout s'est passé comme si, au cours de l'affaire Fouquet, la voix de La Fontaine, plus étrangère que jamais à la force et à l'autorité, avait trouvé dans sa douceur même le principe de sa profondeur et le secret de sa sonorité. Ni l'élégie aux nymphes de Vaux, ni l'ode au roi, ne prétendent contester la toute-puissance royale ni le bien fondé de son coup d'État. Mais les deux poèmes n'en sont pas moins, à bien des égards, plus terribles que les sonnets vengeurs qui se multiplient alors sous le manteau pour accabler Colbert. Ils tendent au roi lui-même, à son triomphe, à sa majesté, à sa légitimité, un miroir de sentiments intimes et sacrés parce qu'intimes, qu'il lui suffirait d'un geste de clémence pour rallier aussi à sa gloire, mais sans lesquels cette gloire toute puissante dans les faits ne sera jamais que politique et privée de ce qui inspire l'amour.
Vous dites La Fontaine a chanté le sommeil, la volupté, la solitude, le loisir, etc. Bon, et puis il y a un autre aspect de La Fontaine qui s'oppose au pouvoir. Enfin, qui, en tous les cas, refuse d'être un courtisan. Et cela, peut-être, ne l'aurait-il pas été s'il n'y avait pas eu cette affaire Fouquet.
Vous avez parfaitement raison. Je crois qu'il y a un paradoxe, au fond, dans comme dans tout vrai drame. C'est que, en fait, La Fontaine doit beaucoup à Louis XIV.
Oui.
Mais indirectement.
Indirectement, car il n'a jamais été reçu à Versailles.
Non, il n'a jamais été reçu ni au Louvre, ni à Versailles. Il était dans une espèce de semi-disgrâce. Non pas disgrâce, parce qu'il ne comptait pas tellement aux yeux du roi. Mais enfin, il ne faisait pas partie, comme on dirait aujourd'hui, du premier cercle. Loin de là.
Sire, pendant que le roi décharge sa conscience sur les juges déclarent qu'ils obéissent aux ordres du roi. Mais ce qui va étonner Paris, la France, l'Europe, c'est que Colbert ait eu la hardiesse d'assister au conseil comme juge de mon mari. Lui qu'on sait publiquement être sa plus véritable partie, lui que personne n'ignore avoir depuis 6 ans, était son adversaire déclaré, avoir inspiré tout ce qu'il a pu de chimérique et de faux contre lui. Premièrement, à son éminence, dont il voyait les jalousies et les défiances éternelles. Puis, à votre majesté, où son emploi lui donne moyen d'être à toute heure. Colbert, qui a soustrait à Saint-Mandé tous les papiers qui pouvaient servir à la justification de mon mari, lui, sire, qu'on sait avoir consulté et sollicité contre la vie de mon mari, ce que nul n'ignore dans Paris. Lui qui s'est expliqué, non pas une fois, mais plus de 100, comme j'offre de le prouver et vérifier à votre majesté, que mon mari méritait la mort en des termes fort injurieux et qui marquent assez l'intérêt particulier qu'il croit avoir à perdre mon mari et à ôter un témoin aussi instruit de ses actions, dont il a raison de cacher avec tant de soin la connaissance à votre majesté.
Mais en somme, cet éloignement du roi, peut-être même ce mépris du roi, ou en tout cas cette condescendance de haut que le roi a eue pour lui, a certainement été un des éléments essentiels autour duquel il a construit la force, l'autonomie, l'indépendance, je dirais presque la légère nuance de défi qui donne tant de charme à ces fables.
Car il y a dans les fables de La Fontaine des propos extrêmement durs, extrêmement sévères et même provoquants.
Provoquants, je crois que la forme...
La façon dont il parle parfois des rois.
Oui, toute la série que j'étudie des fables sur le lion... la cour du lion, les obsèques de la lionne, les animaux malades de la peste, sont peut-être ce que l'on a écrit de plus sévère, de plus, je dirais presque de plus à la Daumier, contre, au fond, un cercle de pouvoir et ses figures majeures, le roi, ses courtisans, ses ministres, etc.
Mais alors voilà justement un trait de La Fontaine que l'on ne soulignait pas avant vous.
On l'a souligné.
Très peu.
On l'a souligné.
Et on ne le retenait pas.
Mais on a oscillé entre un La Fontaine qui était au fond un peu un innocent, qui chantait parce qu'il avait du talent pour ça, ou bien alors on lui a prêté une sorte de talent de véritable pamphlétaire que, à mon avis, les fables n'entendent pas être, ou n'entendent pas illustrer du tout.
Un fou et un sage. Certains fous poursuivent à coups de pierre un sage. Le sage se retourne et lui dit « Mon ami, c'est fort bien fait à toi, reçois cet écu-ci. Tu fatigues assez pour gagner davantage. Toute peine, dit-on, est digne de loyer. Vois cet homme qui passe. Hein. Il a de quoi payer. Adresse-lui tes dons. Ils auront leur salaire. » Amorcé par le gain, notre fou s'en va faire même insulte à l'autre bourgeois. On ne le paya pas en argent, cette fois. Maint estafier à court, on vous happe notre homme, on vous l'échine, on vous l'assomme. Auprès des rois, il est de pareils fous. À vos dépens, ils font rire le maître. Pour réprimer leur babile, irez-vous les maltraiter? Vous n'êtes pas peut-être assez puissant. Il faut les engager à s'adresser à qui peut se venger.
Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que par position, et parce qu'il était très intelligent et qu'il avait un sens extraordinaire de la langue française, c'est un poète, il est à l'intérieur de la langue. Donc le destin du royaume, le destin politique du royaume, s'identifie pour lui au destin de la langue. Il aimait la langue du XVIe siècle, il aimait la langue du XVIe siècle un peu réformée par Malherbe, mais pas trop. Il la voulait riche, variée. Il voulait un maître qui ne fût pas un maître lyrique, qui ne fût pas trop régulier. Il a inventé cet admirable maître irrégulier qui permet à la phrase d'être à la fois très fortement rythmée et d'être en même temps très souple, très varié.
C'est un novateur et en même temps c'est un héritier, parce que il y a, vous vous rappeliez, les écrivains du XVIe siècle, mais il y a aussi les Grecs et les Latins. Il y a Terence, il y a Horace.
Oui, alors il me semble que ce que j'essaye de mettre en évidence, c'est que ce miracle de culture dont a parlé Gide à son propos, parce qu'on sent que derrière ces fables si simples, si évidentes, si chantantes, il y a Horace, il y a Tacite, il y a Virgile, comme il y a Ronsard et comme il y a Malherbe et Durfée. Mais il me semble que cet enracinement dans une vaste littérature antérieure, ce côté traducteur de La Fontaine, lui donne justement cette énergie pour tenir bon face à un pouvoir qui lui parle la langue du jour, si vous voulez, ou la langue d'hier, mais qui n'a pas cette espèce d'arrière-plan de longue mémoire.
La traduction est un des plus sûrs moyens dont les poètes disposent pour coaguler dans le présent ce qui, de la poésie témoin de l'âge d'or, est épars dans l'ailleurs et l'autrefois. L'exercice poétique de la traduction est ainsi apparenté à celui de la correspondance. Les lettres abolissent les distances et rendent présents les amis absents. Elles maintiennent vivants leurs dialogues suspendus. Ces messages sur papier avaient été d'abord, dans l'Antiquité, des inscriptions gravées sur la pierre. La Fontaine, comme Horace, a été fécond en épîtres en vers ou comme voiture, mêlée de vers et de prose. Mais il a composé aussi des inscriptions et des épigrammes. Ils ont donné leur nom, la partie signifiant pour le tout, à la littérature elle-même. Les lettres sont une conjuration d'amitié dans les ténèbres toujours recommencées par la garde de fer des amours propres. La fable orientale, le corbeau, la gazelle, la tortue et le rat, résume cette solidarité clandestine qui fait échapper les amis séparés par les siècles, par les nations et par les malheurs à la cruauté aveugle du monde. Il y a des degrés dans la traduction. Les belles infidèles auxquelles l'ami huguenot de La Fontaine, Nicolas Perrault d'Ablancourt, traducteur de Lucien, de Tacite, de Thucydide, doit son rayonnement au XVIIe siècle, étaient déjà de la poésie. Elles accordaient la forme et le message de grands textes antiques, chargés d'expérience, mais menacés de rester ou de redevenir inaudibles aux inquiétudes et aux goûts des contemporains. Les épîtres en vers de La Fontaine ne traduisent pas celles d'Horace. Elle ne les imite même pas comme le fait Boileau.
Je ne prends que l'idée et les tours et les lois que nos maîtres suivaient eux-mêmes autrefois.
Mais elle retrouve la variété, les saveurs mélancoliques et ironiques, l'urbanité horacienne. Elle les réintroduisent dans l'actualité la plus immédiate et contemporaine. Elle les font circuler dans une conversation sinueuse qui frôle parfois le journalisme en vers de Loret, dont les années Fouquet avaient été friandes. Elle s'en éloigne aussitôt à tire d'aile. entre la belle infidèle et le journalisme, entre la tradition revivifiée pour aujourd'hui et le temps qui passe, effleurée et suspendue par la mémoire, la poésie de La Fontaine a essayé toute une gamme de formes et de tempéraments. D'un extrême à l'autre, cela supposait toujours qu'il tînt les deux bouts de la chaîne, l'enracinement dans la tradition poétique patrie-familière et le sens aigu de l'actualité, la curiosité de l'éphémère, les antennes pour les occasions, les modes successives, les goûts divers. Il est difficile d'être à la fois plus ancien et plus moderne que La Fontaine, ce poète des passages.
Et au fond, ce que j'ai essayé de souligner, c'est qu'il ne peut pas y avoir de grande poésie si cette poésie ne repose pas sur la très longue mémoire de la poésie. La poésie n'a de sens que dans une tradition poétique.
Vous dites que c'est le seul lyrique.
C'est le dernier lyrique. Il y a eu de grands lyriques au XVIIe siècle. Je dirais même que c'était une des dernières grandes saisons lyriques françaises, puisqu'on a eu Tristan, on a eu Saint-Amand, on a eu toute une série de... Il y a eu Racan, Malherbe lui-même, à
justement,
certains
égards. Justement, dans votre livre, on aperçoit tous ces écrivains que d'ordinaire, on laisse, sinon dans l'ombre, tout au moins dans la pénombre.
Oui, alors j'ai essayé de faire de ce livre, pour le lecteur, comme pour moi d'ailleurs, une véritable revisitation de l'ensemble du XVIIe siècle, et en particulier de sa seconde période, naturellement, celle où se développe La Fontaine. Alors on y rencontre les poètes, on y rencontre les politiques, on y rencontre ces femmes merveilleuses, Madame de Sévigné, Madame de Montespan.
Il faut parler des femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes qui l'ont soutenue.
Oui.
Il aimait beaucoup les femmes, mais les femmes le lui ont bien rendu.
Oui, il a eu la chance de rencontrer des princes qui l'ont aimé, qui l'ont soutenu, et des femmes tout à fait exceptionnelles, comme Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, comme Madame de Montespan, là, qui a eu quand même beaucoup de pouvoir à un certain moment, et qui donc l'a rapproché de la cour, et puis Madame de La Sablière, cette petite bourgeoise, comme l'appelait la grande mademoiselle, la cousine de Louis XIV, mais qui est en réalité une des femmes les plus douées, les plus savantes, les plus libres d'esprit du XVIIe siècle, et qui a créé autour de lui une sorte de cercle, de salon, dirions-nous, où pendant presque 10 ans, il a été assez heureux.
Le libertin des contes.
Oui.
Fait une bonne mort, il se convertit.
Ah oui,
sa conversion. Comment expliquez-vous cette conversion ?
Je vous avoue que c'est le chapitre que j'ai eu le plus de mal à écrire.
Je m'en doute.
Parce que c'est assez déconcertant. Cet homme qui est tout en irisation, qui est tout en nuances, qui n'aime pas choisir, qui est ami de tout le monde, aussi bien de Port-Royal, de l'oratoire, c'est-à-dire de ce qu'il y a de plus pieux, de plus zélé, et puis avec les libertins les oui. plus, je dirais, les plus abandonnés. Tout d'un coup, il faut reconnaître que l'entrée de Madame de La Sablière dans une sorte de grande dévotion l'a certainement beaucoup poussé. Mais enfin, passage d'un extrême à l'autre m'a beaucoup déconcerté.
Mais vous dites tout de même qu'il n'a jamais cessé d'avoir un horizon chrétien.
C'est vrai. C'est vrai, et on le voit justement dans le fait que lorsqu'il a voulu, au fond, tout jeune homme, devenir prêtre, il a choisi des compagnies de prêtres les plus sévères, l'oratoire, et quand il en est sorti, au lieu de venir, comme ça arrive souvent quand on se libère, en somme, d'une vocation, au lieu d'aller immédiatement vers l'athéisme ou une sorte de débauche. Non, il est resté en très bons termes avec les oratoriens, il est entré en très bons termes avec les port-royalistes, et on le voit toujours, au fond, tourner autour de ce qu'il y a de plus authentiquement chrétien dans son époque. Et à la fin, à mon avis, il y a deux éléments qui ont joué. J'ai beaucoup pesé le pour et le contre. J'ai employé même des instruments de mesure aussi délicats que possible.
Ce n'est pas facile.
Pour comprendre. Et je pense que les deux éléments qui ont joué le plus, c'est d'abord Madame de la Sablière, qui était vraiment sa grande amie, qui s'était convertie, qui était protestante, qui s'est convertie au catholicisme, et qui s'est convertie à une piété extraordinairement intense et sévère. Et puis, d'autre part, le fait que il a été attiré dans le cercle de Fénelon, et que la religion de Fénelon, cette religion où l'affectivité, où la confiance, l'abandon même en un dieu d'amour joue un rôle si grand, a dû, à mon avis, faire tomber un certain nombre de réserves qu'il n'avait jamais pu quitter. Et au fond, il est mort presque en saint. Boileau, avec une certaine ironie, dit « Qui eût dit que notre ami serait devenu une sorte de saint par sa mort ?»
La solitude intérieure de La Fontaine, poète, dans les années 1680-1690, n'a jamais été si grande. Molière est mort en 1673. Racine et Boileau se sont éloignés sur les pentes de l'Olympe royal. Chapelle meurt en 1686. Et le 21 janvier 1670, était mort à Paris, âgé de 80 ans, le dernier grand poète lyrique de la génération de Tristan, de Saint-Amand, de Malville, si fécond dans lyrisme, Honorat de Bueil, seigneur de Racan. Dans l'épître à Huette, en 1687, La Fontaine, à sa manière indirecte, suggère en deux vers le sentiment de désert qu'il éprouve au fond de lui-même. Malherbe avec Racan, parmi les chœurs des anges, là-haut de l'Éternel, célébrant les louanges, ont emporté leur lyre. Et j'espère qu'un jour, j'entendrai leur concert au céleste séjour.
Eh bien, monsieur, il y a un mot que nous n'avons jamais prononcé parlant de lui, c'était le bonhomme.
Oui.
Je pense qu'on on ne le prononcera plus jamais maintenant.
J'espère, en tout cas, qu'on le prendra un peu plus dans sa profondeur.
C'était Un livre des voix, une émission de Claude Mourté. Aujourd'hui, Le poète et le roi de Marc Fumaroli de l'Académie française, aux éditions de Fallois. Extrait lu par Florence Dumortier, Léon Lessac et avec la voix de Pierre Freinet. André Bourin s'entretenait avec l'auteur. Prise de son, mixage, Bernard Charron, Bruno Roncière. Assistant, Patrick Molinier. Réalisation, Maurice Audran.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 4 avril 1997. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr. Thank you.
Thank you.